Les lumières du festival. Chronique quotidienne du festival Lumière. Jour 6, vendredi 14 octobre. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette cinquième chronique du festival Lumière sur Transistor. Ce soir, je suis avec Solène et nous venons de voir All About Eve de Joseph Mankiewicz. Bonsoir Solène.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que ça raconte ce film ?
Alors justement, c'est un film qui nous dit tout sur Eve. Eve, c'est une jeune femme qui débarque un peu de l'Amérique profonde et qui est absolument fan de théâtre et qui souhaite par-dessus tout rencontrer son idole, c'est Margot. Margot Channing, qui est jouée par Bette Davis, qui est une star du théâtre new-yorkais, qui a son firmament, mais qui a déjà 40 ans et qui est très préoccupée par l'âge, les années qui passent. Et donc elle rencontre son actrice fétiche et elle s'introduit peu à peu dans le milieu des gens de théâtre et jusqu'à vouloir devenir elle-même actrice et à y parvenir au prix de, non pas de sacrifice, mais avec beaucoup de ruse, on va dire.
Beaucoup de ruse, et alors ça fait intervenir toute une galerie de personnages secondaires, parce que le film dure presque 2h30, il a le temps de... Le scénario a quand même bien le temps de se développer. Donc, personnage du metteur en scène, il y a un régisseur de théâtre, un critique de théâtre qui a une place assez importante et étonnante dans le film. Il y a l'auteur qui est le mari d'une amie de l'actrice Margot.
En fait,
Margot,
il y a deux couples d'amis. C'est un petit monde à la fois de relations professionnelles, amicales et sentimentales. Alors, il y a le couple joué par Bette Davis, qui est donc Margot, la star, et son mari, Bill, qui est metteur en scène. Et leur couple d'amis, Lloyd, qui est l'écrivain, l'auteur de ce film et de la pièce que joue Margot, et sa femme Karen. Karen qui est un peu au centre de l'intrigue puisque c'est elle qui introduit la jeune Eve auprès de sa star préférée Margot. Et donc il y a toute l'intrigue se noue autour de ce personnage très mystérieux qui est Eve et qu'on découvre finalement, qui est dévoilé finalement que dans la dernière partie du film,
oui.
Très tard. Et finalement, pendant la première moitié du film, on se demande justement ce qu'on sait d'Eve. On a l'impression que finalement, ce film nous parle plus de Margot, la grande actrice, que du personnage qui... du titre finalement.
Et petit à petit quand même ce personnage s'installe dans le quotidien de ce espèce de petite troupe et le déstabilise insensiblement au début et puis jusqu'à écrouler quand même pas mal de choses. C'est assez intéressant et tout ça passe par les dialogues du film qui sont vraiment impressionnants. Enfin, alors le film est une comédie d'abord, une comédie quand même très très acide à la Mankiewicz.
Le milieu du théâtre,
oui, voilà.
Le milieu des acteurs et de la critique théâtrale.
Et le ressort comique principal, c'est vraiment le dialogue et avec des personnages qui parlent sans arrêt. C'est vraiment le film est une pièce de théâtre à part entière et ouais. Pourrait complètement être joué sur une scène avec des échanges qui personnellement m'ont vraiment impressionné ouais. la vitesse et la justesse d'écriture.
Et Bette Davis est vraiment exceptionnelle dans ce rôle d'actrice un peu vieillissante et elle est extrêmement impressionnante dans ce rôle là.
Oui, c'est vraiment un film qui pointe de façon assez mordante ouais. Tout un monde du spectacle ouais. Dans lequel Mankiewicz vivait et qui est montré pas forcément sous ses plus beaux jours dans ce film.
Non, c'est un de ces grands films hollywoodiens, je pense, sur qui parle du cinéma et qui parle... ici, on est plutôt du côté de Broadway, mais ça fait partie de ces films qui parlent finalement du milieu dans lequel ils sont créés. Eux-mêmes et un peu comme un peu comme Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, mais c'est vraiment intéressant justement.
Oui. Et d'ailleurs, oui, Wilder n'est pas loin non plus. Enfin, quand on est dans l'ambiance.
Ouais.
Ici, un film donc qu'on recommande chaudement aux auditeurs qui nous écoutent et qui est sans doute encore projeté d'ici la fin du festival. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il y a peut-être encore une chance de le voir demain ou après-demain. Sinon, de toute façon, c'est dans toutes les bonnes filmothèques.
Bonjour auditeurs et auditrices de Transistor, accessoirement festivalière et festivalier du Festival Lumière, édition 2016. C'est Maëlys et aujourd'hui je vais vous parler du film Les Portes de la Nuit que j'ai été voir vendredi en fin d'après-midi dans le petit cinéma La Fourmi situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Réalisation Marcel Carné, scénario Jacques Prévert, musique Joseph Cosma. Du lourd quoi. Pourtant Les Portes de la Nuit est un film bien moins connu que les autres collaborations Carné-Prévert, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir et autres qui est des brumes. Boudée par le public à sa sortie, cette dernière collaboration officielle entre le réalisateur et le poète a moins marqué les annales. Enfin, pas tout à fait. Vous connaissez sûrement...
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous. Les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Les Feuilles Mortes, paroles de Jacques Prévert, musique de Joseph Cosma, interprétée ici par Yves Montand. Chanson magnifique, mondialement connue, composée à l'origine pour la bande originale de ce film, ce qui est moins connu. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en février 1945, dans le Paris populaire, le destin, personnifié en vagabond, joué par un Jean Villard grandiose et énigmatique, orchestre l'aventure amoureuse entre un jeune résistant Diego, Yves Montand dans son premier rôle principal, et Malou, la jeune Nathalie Nattier, ancienne jeune fille sans le sou, mal mariée à un riche et avide homme d'affaires, Georges, Pierre Brasseur, toujours truculent. Donc bien sûr, comme l'indique le titre, leur idylle sera aussi fugace que tragique, avec en arrière-fond du triangle amoureux, de sombres histoires de délation et de règlement de compte dans le contexte de la libération et de l'épuration. Règlement de compte notamment entre Diego et Guy, le frère de Malou, au penchant pétainiste, joué par le jeune Serge Reggiani, tout aussi éblouissant. Donc bien sûr, parce que c'est un film de 1946 sur la résistance, et que le mythe du tous résistants est encore bien vivace, Les Portes de la Nuit tombent un peu dans le manichéisme, donc il y a les bons résistants d'un côté et les méchants collabos de l'autre, mais on peut quand même saluer en fait dans ce film le mérite du réalisateur de s'attaquer à un sujet aussi vif à l'époque. Et puis il y a cette indéniable poésie entre les deux amoureux qui se retrouvent réunis, quand ils se retrouvent réunis par le hasard au milieu d'un chantier à l'abandon, un dédale peuplé de statues, de miroirs et d'objets anciens. Donc Marcel Carné filme leur idylle naissante avec ses fameux clairs obscurs et ses gros plans sur les visages, où les émotions se dessinent subtilement au son de la petite musique des dialogues de Prévert. Bref. Un film réaliste par rapport au film précédent de Marcel Carné, plus dur et plus sombre, mais avec de vrais moments de grâce. Donc Jean Villard joue magnifiquement le destin, un vagabond magicien inquiétant qui rôde autour des personnages et provoque les rencontres et prédit la mort. Il ajoute une note tragique et grandiose au récit et confère aux vies des personnages une signification symbolique universelle. Donc le destin est toujours accompagné en fait par la musique des Feuilles Mortes qu'il joue à l'harmonica, musique qui est presque un personnage à part entière en fait dans l'histoire. Cette musique est fredonnée par Diego qui tente de se souvenir de où est-ce qu'il l'a entendue. Elle est chantée par Malou qui l'a apprise dans son enfance d'un musicien heureux. C'est une musique qui sonne vraiment comme un avertissement pour les personnages et qui confère au film une teinte nostalgique qui est vraiment très touchante. Voilà, donc un film du duo Carné-Prévert, peu connu, très différent des précédents mais dont la singularité vaut vraiment le détour. Donc avant de vous quitter, chers auditeurs, je voudrais aussi conclure sur un autre film de Marcel Carné qui a déjà été présenté en début de semaine dans cette émission. Donc jeudi soir, je suis allée voir Hôtel du Nord à l'UGC Confluence présenté avec un enthousiasme communicatif par Vincent Ladon. Et je voudrais juste faire un petit addenda à la jolie chronique de Solène. Donc je voudrais parler d'un petit détail de ce film mythique, tragique mais très drôle avec ses dialogues si bien ciselés. Donc en fait il y a une scène où Raymond, le personnage joué par Arletty avec sa gouaille légendaire, reproche à son amant Edmond, donc accessoirement son macro, alias Louis Jouvet, qui joue vraiment magnifiquement bien dans ce film, qui est très théâtral, de tourner, donc elle lui reproche de tourner un peu trop autour de la jeune Renée, qui est jouée par Annabelle. Scène suivante, gros plan sur le visage d'Arletty, affaibli soudain d'un bel œil au beurre noir. On comprend vite, pardon, la petite ellipse. Madame a eu un mot de trop et s'est pris un nion, quoi. Et c'est bien fait pour elle. Visiblement, les scénaristes voyaient dans ce retour de bâton un ressort comique. Donc c'est un topos, me direz-vous, la scène de ménage, dans la veine de la dispute du couple inaugural, de la scène inaugurale du médecin malgré lui, de Molière, où Sganarelle, en fait, corrige Martine, l'insolente, avec des coups de bâton. Donc on est au XXIe siècle, et maintenant, ok, ça ne passerait plus, mais bon, autre temps, autre mœurs, me direz-vous, avec raison. Mais bon, enfin, on grince quand même un peu des dents sur le moment. Enfin, moi, j'ai grincé des dents. Surtout que la scène d'après, c'est l'épisode 3 de la dispute avec la fameuse réplique « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» prononcée par une Arletty au visage bien amoché. Bref, le sous-texte de la fameuse réplique encensée par tous sent un peu rance aujourd'hui. Banalise les violences faites aux femmes, dirait-on anachroniquement. Donc, Hôtel du Nord est un vrai bijou, le symbole d'un âge d'or du cinéma français, mais il a aussi vieilli, la preuve, avec ce petit détail. Donc au cinéma comme à la ville, tout n'était pas mieux avant, et tant mieux pour nous. Donc sur cette note un peu aigre-douce, je vous souhaite un très bon au revoir, chers auditeurs. Le festival touche bientôt à sa fin, mais continuez à aller en prendre plein les mirettes dans les salles obscures, et surtout restez sur les ondes de Transistor.
C'était Les Lumières du Festival, une émission coordonnée par Rémi Cerda, avec aujourd'hui Solène Baron et Maëlys Barr.
Around, spreading the news, singing the news.